Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Hey, salut tout le monde! On a un autre rendez-vous avec vous pour l'émission « Ça tient la route ». On est en plein salon de l'auto.
C'est vrai.
Après l'émission, je me sauve vers le salon de l'auto. On va recevoir aujourd'hui, en direct de Détroit.
Pas rien.
C'est pas rien. Mm-hmm. Laetitia Lopez, qui est directrice du design, couleur, matériaux et finitions pour Cadillac. Évidemment, on va parler de son domaine.
Ben oui.
Parce qu'on le sait, les femmes ont souvent leur gros mot à dire sur le design intérieur de véhicules depuis déjà bon nombre d'années. Mm-hmm. On va parler de ça, peut-être un peu des tendances. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on fait le design d'un véhicule électrique d'une manière différente qu'on le fait dans un véhicule à essence? Bref, on va parler de tout ça avec Mme Lopez tantôt. Salut Alain.
Salut Benoît.
Moi je pars de même.
Attends,
fais
un bout de temps qu'on jase,
oui, absolument. SR Routier, t'as quoi au programme, toi?
Ben, j'ai comme un ballon qui se dégonfle. J'ai un Honda Passport, qui est le VUS intermédiaire de Honda, qui était excellent si seulement il avait été vendu en 2015, parce que c'est un véhicule qui est un petit peu en retard sur la compétition. Je veux dire
moi, mon ballon qui se dégonfle encore plus gros que le tien. Moi, j'ai un Jeep Grand Wagoneer. Elle.
Ah oui.
Parce que.
Ah oui, ben oui.
Parce qu'il y a un modèle allongé de 30 cm.
C'est le plus grand véhicule léger vendu au Canada. Si c'est pas en Amérique du Nord en entier.
Il y a nulle part où tu peux associer ça au mot léger.
Ah oui, mais ça, c'est un.
Il
n'y
a rien de léger.
Sauf peut-être dans le catalogue de Transport Canada.
Et pour la première fois, je pense, depuis ma carrière de journaliste automobile, j'ai mis plus de 200 $ de gaz dans ce véhicule avant d'aller le remener.
Ça, c'est
J'ai presque fait une dépression. Je pensais que je mettais du gaz à terre. Ben non. j'ai rempli. En tout cas, on va en reparler tantôt. Je veux pas vendre la peau de l'ours trop vite. Et évidemment, bon, on a nos nouvelles de la semaine.
Exact.
Alors, qu'est-ce que vous avez, M. Mekena, en nouvelles de la semaine?
Ben écoute, en préparation pour l'entrevue avec Mme Lopez, qui est de Cadillac, on a une petite nouvelle à propos de Cadillac, justement, parce que ça a fait jaser cette semaine. Il va y avoir, les gens se demandaient, mais il va y avoir des versions haute performance, même dans l'électrique pour Cadillac.
Ouais, c'est intéressant. Donc, l'équivalent des versions V.
Exactement. Les dirigeants de Cadillac l'ont un peu laissé planer le suspense là-dessus, mais on a tranché il y a quelques jours. Il va y avoir des variantes haute performance des véhicules électriques, de la même façon qu'on trouve justement dans son catalogue des versions V, plus musclées de certains de ses modèles les plus populaires. On a juste à penser à la 7T4V, la Blackwing, qui est un véhicule très apprécié par toi-même, d'ailleurs.
Oui, vraiment des beaux modèles.
Il y a un CT5V qui s'en vient aussi, qui sont toutes des versions survitaminées, là, évidemment, des berlines et VUS de Cadillac. Des véhicules qui ont une bonne cote chez les amateurs. D'ailleurs, le modèle V, le plus populaire de la gamme Cadillac, est l'Escalade V. Un VUS, que vous le savez, là, c'est un gros VUS de luxe, assez spacieux pour accueillir jusqu'à 7 passagers. Il est assez puissant pour les propulser de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes seulement.
Ce qui est assez impressionnant, considérant la grosseur de la chose.
Et le poids, exactement. Oui. C'est quand même un V8, c'est pas une petite cylindrée, on va dire ça comme ça, qui propulse tout ça. Plutôt cette semaine, là, il y a un dirigeant de Cadillac qui a donc confirmé à des médias américains qu'on va voir la même approche être mise en application du côté de l'électrique. Ses mots exacts en anglais étaient qu'il y aura des variantes plus performantes de tous les véhicules sans égard au type de motorisation. Donc, ça laisse beaucoup de place. Pour le moment, l'offre électrifiée de Cadillac est assez limitée. Là, on parle du Lyriq, qu'on trouve d'ailleurs juste en très petit nombre sur nos routes de toute façon.
Oui.
Là, on l'a vu au salon. Il y a l'Escalade EQ qui s'en vient, qui est le gros VUS tout électrique.
Oui, ça, j'ai hâte de voir ça, une version V de ça.
Eh boy! Oui. ça va venir parce que l'Escalade V est le plus vendu. Donc,
est-ce qu'on va avoir un Célestique V?
Ben, il faut se poser la question parce que c'est une super voiture électrique déjà assez spectaculaire. La Célestique, une voiture qui devrait propulser la marque Cadillac là, dans les sphères de Bentley et Rolls-Royce.
C'est ça, t'as 300 000 US.
C'est un prix.
Un V, quoi, tu vas qu'à 300, quoi, 50 000 US.
Je pense que rendu là, le prix n'a plus vraiment d'importance. Les gens qui achètent un véhicule. 300 000 US, c'est pas vraiment, c'est au-dessus de 400 000 Canadiens. En plus, là, c'est quand même sous assez. Peut-être Luc Poirier pourrait en acheter une, mais qui d'autre à part ça, n'est-ce pas? Il y en aura aussi, évidemment, des plus abordables, voire peut-être plus déraisonnables. On va bientôt avoir droit au Cadillac Optique, avec un Q, mais pas de U, de E à la fin. Un VUS pleine grandeur qui risque d'attirer un peu plus d'acheteurs, on s'entend. Et si on se fie, donc, à ce qui s'est dit ces derniers jours, peut-être qu'on va avoir droit à des versions V de ces modèles-là. La question que personne, à laquelle personne n'a donné de réponse encore, c'est est-ce que ça va être V ou ça va être E ou ça va être une autre lettre pour signifier que c'est une puissance électrique additionnelle.
Oui. Donc, est-ce qu'il y aura une division performance électrique?
Oui, on va garder le V. On le sait qu'Hyundai le fait déjà avec sa division N, avec une Ioniq 5N.
Ou un K pour kilowatt.
Ou un W pour deux fois V.
C'est ça.
Ça, en tout cas, la porte est ouverte de ce côté-là. Mais la longue histoire courte, cette approche-là de décliner des variantes de performance chez Cadillac va rester. Et on imagine que ça va inspirer aussi les marques haut de gamme rivales, allemandes, entre autres, à faire la même chose éventuellement.
À ne pas craindre, ça va se faire ailleurs aussi. Parce Exactement. Que la performance vend. Qu'elle soit essence ou qu'elle soit électrique.
Parlez-en AMG chez Mercedes-Benz.
Oui, voilà, exactement.
Et ça va au Canada, ça, faut le dire, c'est important. On pense souvent que c'est limité à des marchés exotiques, mais non, les acheteurs ici sont très friands de ces véhicules.
Absolument, absolument. Hey, des nouvelles de l'Apple Car, parce que là, tu nous en avais parlé, ça fait une couple de mois déjà.
Ça fait un bout de temps qu'on n'entendait plus trop, plus tellement parler. Mon Dieu, cette phrase était difficile. Ce qu'on appelait à l'époque le projet Titan, le fameux projet secret évidemment d'Apple, là, qui consistait à développer de toutes pièces une voiture électrique et probablement autonome. Ce projet-là, donc, n'est pas aussi mort qu'on le croit, justement. En tout cas, il y a des rumeurs qui circulent de plus en plus ces jours-ci qui laissent entendre qu'Apple serait toujours en train de développer un projet automobile, quel qu'il soit. Là, mais on dit que les ambitions seraient aujourd'hui beaucoup moins grandes qu'avant la pandémie. Ce qui fait beaucoup jaser du côté technologique ces jours-ci, c'est la rumeur relancée par Bloomberg, justement, selon laquelle Apple pourrait commercialiser une voiture quelque part en 2028. Donc là, on a une date. Ce qui, d'ailleurs, si vous suivez les rumeurs, là, arrive deux ans plus tard que la date qui circulait dans les rumeurs avant.
Oui, en fait, il y a deux ans, on parlait de 2026. Deux ans plus tard, on parle de 2028.
Donc, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais la raison supposée de ce retard, c'est qu'Apple serait parvenu à développer un système de conduite autonome pas tout à fait à la hauteur de sa satisfaction, en tout cas de ses ambitions originales. Et qu'en conséquence, il a fallu développer un autre système qui, celui-là, sera de niveau 2. Donc, moins sophistiqué que les niveaux 3, 4 ou 5 qu'on aurait rêvé développer pour vraiment révolutionner le marché. Et ça ressemblerait beaucoup, niveau 2, on le sait, à ce que proposent déjà les Tesla et General Motors de ce monde avec leurs systèmes respectifs. De toute façon, là, c'est pas encore où l'Apple Car aurait pu déployer une conduite autonome de niveau 3 ou plus. On a parlé un petit peu de Mercedes-Benz dans les derniers jours avec son concept CLA là, qui a été présenté au CES, qui a une conduite autonome de niveau 3, mais qui va être seulement fonctionnelle sur quelques rares bouts d'autoroute au Nevada et en Californie.
Donc, ben, en fait, c'est qu'avant de mettre un niveau 3 sur le marché, il faut avoir des ententes.
Ben, il faut faire bien des choses.
Parce que, entre autres, à un niveau 3, s'il arrive un problème, c'est le constructeur qui est tenu responsable.
Ouais.
Et ça, c'est un gros, gros, gros pas en avant que beaucoup de constructeurs ne veulent pas franchir pour le moment.
Ouais.
On le sait, tous les problèmes qu'il y a eu avec les véhicules comme Cruise, les Waymo, Uber, qu'il y a eu des véhicules autonomes où il y a eu des accidents, des cas de collision, bon, etc. Alors, une compagnie, avant de faire ça, là, doit remplir, une paperasserie assez impressionnante.
Non, exact. Il faut convaincre les gouvernements de légaliser la pratique, parce que ça ne l'est pas encore.
Non, exact. Ça se fait par état du côté des États-Unis.
Voilà.
Mercedes, là aussi, pour le moment, en Allemagne.
Oui, c'est vrai.
Et pas partout en Allemagne. Dans certains départements d'Allemagne où on a montré patte blanche et que tous les critères ont été remplis. Donc, le niveau 3, là, on améliore les niveaux 2. Mais pour le moment, je pense qu'on va finir par atteindre le maximum de ce qu'on peut faire avec un niveau 2. Puis avant qu'on passe à un niveau 3, moi, j'ai l'impression qu'il va se passer un certain temps à cause des responsabilités qui vont avec ça.
Est-ce qu'on l'aura en 2028, c'est à suivre? C'est sûr que c'est un autre dossier mystère qui fait jaser, parce que tout ce qui touche à Apple fait évidemment suscite beaucoup de discussions, disons-le comme ça. Juste rappeler pour la petite histoire qu'on promettait il y a 15 ans là, qu'Apple lancerait son propre téléviseur 4K de très grand format, mais ça ne s'est jamais produit. Il y a des analystes très sérieux dans des firmes d'investissement très sérieuses qui promettaient plein de choses.
Absolument.
Ça s'est jamais produit. Ces gens-là, d'ailleurs, ont dû changer de boulot depuis. Mais tout peut arriver, ou on peut dire bien des choses, et en tout cas, on verra ce qui arrivera. Entre-temps, on sait par contre que Sony et Google sont aussi des marques technologiques qui ont des projets de lancer leur propre véhicule électrique et autonome.
Ouais.
Et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, donc tout est possible de ce côté-là dans les prochaines années.
Intéressant. De mon côté, une nouvelle qui a fait beaucoup jaser cette semaine, Akio Toyoda, qui n'est plus le président de Toyota,
mais qui est
encore sur le conseil d'administration et qui a encore une influence au sein de la compagnie, a annoncé que les véhicules électriques à batterie atteindront au maximum 30% de part de marché sur la planète. Le reste va être occupé par des véhicules hybrides, des piles à hydrogène ou tout simplement des voitures à essence. Là, évidemment, ça a fait bondir, le mot est faible, beaucoup d'amateurs de véhicules électriques. Puis lui, il explique en disant qu'il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui vivent sans électricité. Il y a un autre plusieurs milliards de personnes qui vivent avec des moyens extrêmement limités, qui n'ont absolument pas les moyens d'acheter une voiture aussi coûteuse. Et il n'y a pas vraiment de solution. Donc, il dit, moi, je me base simplement sur la logique pour dire que, oui, dans les pays bien nantis, ça sera probablement plus élevé, mais il ne faut pas oublier que le 2/3 de la planète vit avec des moyens extrêmement réduits. Et que si le prix qu'on connaît sur les véhicules électriques demeure le même, c'est clair qu'on...
C'est une grosse condition quand même.
Ben oui. Exact. Bon, évidemment, certains disent, ben là, Toyota se défend de défend cette position-là parce qu'ils sont en retard dans la transition sur les véhicules électriques. Il y a juste un BZ4X qui existe et le Lexus équivalent, le RZ450E. Mais Toyota soutient que les moteurs resteront... une préoccupation pour l'entreprise et que Toyota avait déjà pris le virage, mais de façon en utilisant les moteurs hybrides.
Oui, bien, il temporisait sur 40 ans, ce que tout le monde essaie de faire en 15 ans, en fait.
Exact. Bon, ouais. Alors, disait non, nous, on continue, en fait, et on a eu ce discours-là de Toyota à maintes et maintes reprises, c'est-à-dire que nous, en faisant de l'hybride et de l'hybride branchable maintenant, on diminue les émanations là. Oui, on le fait peut-être moins vite qu'un tout électrique, mais les prix sont plus abordables, on en vend beaucoup plus et en bout de piste, les résultats sont meilleurs. Ouais. Tout le monde pourra défendre sa théorie,
exact.
Mais on verra.
Toyota pourrait décider de vendre moitié moins de véhicules aussi, puis ça ferait partie de la solution.
Ben, c'est ça.
Il y a beaucoup d'options, là.
C'est une autre approche. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que j'ai bien hâte de voir dans 10 ans et voir qui avait raison dans tout ça. Alors, ça, c'est intéressant.
Ouais.
Et comme petite nouvelle, on a présenté aussi cette semaine le Chevrolet Equinox 2025.
Oui.
Modèle populaire. Bon, et on voit que le nouveau modèle s'inspire pas mal du Traverse, qui, lui, est déjà pas mal changé. On veut un design un peu plus moderne, un peu plus robuste. On partage beaucoup de lignes, que je le disais, avec le Traverse. On va garder sensiblement les mêmes modèles, c'est-à-dire qu'il va y avoir les versions LS et Premier, mais on va avoir aussi le modèle RS, pas Active, mais le Active. Le Active qui est un modèle qu'on dit un peu plus, comment dirais-je, plein air, randonnée, ouais. Aventure, qui va avoir une capacité maximale de 1500 livres. Donc, faut pas s'attendre à grand-chose. Mais on a fait le pari que, bon, les gens vont pas remorquer de lourdes charges. C'est plus un véhicule familial. Il va y avoir un moteur 4 cylindres 1.5 litres, 175 chevaux, moteur turbo, qui est similaire au modèle actuel. Et la seule mauvaise nouvelle, c'est qu'on abandonne la transmission automatique à 6 vitesses au profit d'une unité CVT. Pour les modèles à traction avant... ou une transmission automatique à 8 vitesses pour la transmission intégrale.
Coûte pas donc, cher,
non, mais allez donc vous acheter un intégral.
Ah oui,
moi,
mais...
moi, quand on met le mot CVT dans une phrase, j'ai déjà un bouton qui apparaît sur, en arrière de l'oreille. C'est toujours en même place. Ça me fatigue profondément. Mais ça devrait être un modèle intéressant. Bon, évidemment, on n'a pas encore le prix. C'est le prix qui fera foi de tout. Mm-hmm. Si ce prix-là est intéressant, c'est un modèle qui va bien se vendre. Voilà, c'était nos petites nouvelles pour la semaine. On va passer à une première pause et on va revenir avec Mme Laetitia Lopez de chez Cadillac.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
On a une invitée qui nous vient de loin et qui a un poste fort intéressant du côté de la compagnie Cadillac. C'est Mme Laetitia Lopez qui est directrice du design, des couleurs, des matériaux et de la finition pour Cadillac. Mme Lopez, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est apprécié. On sait que vous avez des horaires bien chargés. On va parler évidemment de Cadillac en compagnie d'Alain. Mm-hmm. Alain, je te laisse l'honneur d'y aller avec la première question.
Ben oui, ben bonjour Mme Lopez, merci d'être avec nous. Évidemment, ma première question vient être directement inspirée du Salon de l'Auto de Montréal parce que Cadillac a peut-être un des plus beaux stands cette année au Salon. Avec des véhicules extrêmement intéressants, à commencer par le Escalade IQ, qui est un VUS, évidemment, vous le savez mieux que moi, en fait, un gros VUS électrique qui a été présenté là-bas. Je serais curieux de savoir, pouvez-vous me parler un peu du design, quand vous faites du design pour des véhicules électriques, est-ce que vous procédez différemment ou c'est la même chose que designer un véhicule à essence, disons?
Alors, nous avons la même approche. On met tout simplement toujours le client au centre de notre design process.
Mm-hmm. OK, c'est intéressant. Et dans le cas des... vous avez présenté un véhicule, le Celestiq, qui va arriver bientôt. Comment on est arrivé à aller dans la, appelons-la, la super voiture électrique? Parce qu'il y a très peu de joueurs dans cette catégorie-là. Est-ce que Cadillac veut lancer une offensive internationale ou mondiale? Et comment on a procédé pour en arriver là?
Alors, tout simplement, notre design leadership nous a donné la mission de ramener Cadillac en tant que standard of the world dans le marché de l'automobile. Et il s'avère que nous avons choisi un véhicule électrique mm-hmm. pour ce faire avec le Celestiq. Donc, la mission ici a été tout simplement d'offrir cette personnalisation et... pour les clients, pour avoir quelque chose de vraiment très unique à chacun. Donc nous avons mis toute la précision, toute la qualité de design dans ce Celestiq et c'est ce véhicule-là qui a été fait en fait en premier et qui a été le lancement de cette nouvelle gamme que vous avez pu voir à travers d'abord le Lyriq et puis l'Escalade IQ et tout récemment l'Optiq.
Okay. Oui, l'optique, ça en vient aussi. Effectivement, on en parlait plus tôt dans l'émission. Est-ce que le Celestiq est un indicateur du design à venir chez Cadillac? Est-ce qu'on peut dire, waouh, on voit ce que ça a l'air? Évidemment, c'est un véhicule qui est un peu plus cher que ce que vous êtes peut-être habitué à produire, mais est-ce que c'est quand même un indicateur de où s'en va la marque en termes de design, de finition, et ainsi de suite?
Alors, je pense que le Celestiq est très clairement notre étoile polaire, on va dire. Mm-hmm. Pour la marque et comme je l'ai mentionné, ça a vraiment influencé toute la nouvelle gamme. On cherche à élever la marque, à aller dans un milieu qui serait de plus en plus dans le luxe. Hein. On y est déjà, mais on veut vraiment pousser ce curseur un maximum pour répondre aux besoins de nos clients.
Bon, on le sait, il y a plusieurs compagnies, Mme Lopez, qui vont travailler comme une pyramide, c'est-à-dire commencer avec les marques les plus prestigieuses et faire redescendre la recherche, le développement, les connaissances vers les autres marques de la compagnie. Donc, est-ce que dans ce sens-là, on va travailler avec ce qu'on a bâti et acquis du côté de Cadillac pour ensuite faire fleurir ça ou faire envoyer toute cette information-là vers les autres divisions du côté de General Motors?
Alors, je dirais que je pense que tout simplement, toutes les marques chez General Motors sont en train d'essayer de performer ce que nous avons déjà commencé, d'évoluer, de placer encore une fois le client au centre de tout ce que nous faisons. Je pense que c'est un bon challenge même entre nous. On essaye vraiment de se donner des idées, de s'entraider. Il y a un très gros travail d'équipe. Maintenant, est-ce que la technologie de Cadillac va aller dans d'autres véhicules? Ça, on essaye aussi de rester vrai pour chacune de nos marques, parce que très clairement, elles ne s'adressent pas aux mêmes clients. Donc, nous voulons vraiment faire en sorte que chaque marque soit bien représentée et chacune leur propre langage.
Oui, parce que c'est un défi, particulièrement chez General Motors, vous avez quatre marques quand même assez fortes. Et vous partagez depuis longtemps les mêmes groupes propulseurs, les mêmes systèmes multimédia, entre autres, les mêmes interfaces souvent que vous devez personnaliser d'une marque à l'autre. Avec les groupes propulseurs électriques, entre autres avec la plateforme Ultium qui est très utilisée un peu partout chez GM, il semble y avoir une harmonisation au niveau technique. Pour une marque comme Cadillac, pour se démarquer, ça doit demander tout un exercice de design, ça doit rendre le design justement de plus en plus important. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi?
Tout à fait. Je pense que le design a une place majeure. Hein. Bien sûr, le côté engineering est extrêmement important pour nos clients aussi, parce que voilà, il faut qu'il y ait des normes de sécurité, etc., et de performance. Mais je pense aussi que on achète une voiture parce qu'on tombe amoureux du design, et le design a évidemment un rôle majeur dans cela.
Mmh. On parlait un peu plus tôt dans l'émission de l'arrivée des équivalents de modèle V du côté des véhicules électriques chez Cadillac. Décrivez-nous un peu comment vous voyez ça visuellement, un véhicule électrique performant par rapport à sa version régulière, appelons-la comme ça.
Alors, pour le moment, nous n'avons pas encore de V-Series d'annoncer pour notre gamme électrique. Donc, le futur nous le dira, je pense. En tout cas, nous plaçons toujours Cadillac en tant que performance véhicule. Hein. On pousse dans cette direction-là. Je pense que le temps va nous montrer ce qui va se passer. On va voir ce qui se passe.
Ben, c'est quand même une bonne question, cette notion de performance, parce que traditionnellement, le luxe dans l'automobile, c'est toujours une certaine notion, je ne vais pas dire de décadence, mais de surenchère, toujours plus puissant, plus gros, plus fort, ainsi
de suite. Opulence, disons-le comme ça.
Exactement, absolument. Bien dit. On sent qu'avec l'électrique, ça égalise un peu le terrain de jeu entre des marques plus abordables, les marques coréennes, entre autres, se la jouent, là, en voulant dire, nous sommes aussi prestigieux qu'une marque de luxe. Ça met de la pression sur des marques comme Cadillac. Comment vous définissez le luxe dans une époque où la technologie semble être la même un peu partout dans le marché?
Alors, je pense que ici, je dirais que pour Cadillac, ce qu'on veut vraiment aussi pousser, c'est le côté personnalisation, et dans le sens que, à travers nos véhicules, nous offrons quand même plusieurs peintures, les couleurs extérieures, plusieurs intérieurs aussi. Mm-hmm. Ils ont un petit peu des personnalités. On a souvent des sports trim, on a aussi des interactions plus dans la tendance luxueuse. Donc c'est là qu'on va essayer de faire la différence, c'est d'offrir un maximum de choix afin que les clients puissent se reconnaître et communiquer leur personnalité.
Bon, on l'a vu, vous avez déjà quelques véhicules d'annoncer. Est-ce qu'il y a des secteurs du marché, des niches ou des endroits où Cadillac aimerait aller où ils ne vont pas encore? Et dans quelle mesure est-ce que ça concerne tout ça, le département de design comme le vôtre?
Alors, je dirais que c'est une question qui est très orientée vers le marketing. Ici, encore une fois, on essaie vraiment de se concentrer sur ce que nos clients ont besoin, et en fonction, on fera ce qui est nécessaire afin de répondre à leurs besoins.
Parfait.
Bonne question. Ben, je vais revenir sur, parce qu'on parle de design depuis tantôt. Il y a deux choses que je serais curieux de savoir de la part de Cadillac, parce que Cadillac est une marque qui a un très lourd, très long héritage de design. Hein. On parle de voitures. Les gens qui pensent à Cadillac pensent aux vieilles voitures des années 1960, 70, avec les fins à l'arrière, les ailerons, tout le kit.
1903. Cadillac a 121 ans.
Ben voilà. Donc, il y a beaucoup de traditions, j'imagine, à respecter. Et là, on vit vraiment une époque de changement technologique, de changement assez important dans toute l'industrie. Est-ce que pour Cadillac, c'est important d'équilibrer la nouveauté et la tradition? Comment vous situez, justement, cet équilibre-là entre le passé, le présent et le futur quand vous dessinez ou quand vous concevez des véhicules?
Oui, alors, bien sûr, vraiment, on s'inspire énormément de ce que l'on a pu faire dans le passé, de notre héritage. Mm-hmm. Je pense que la ligne directive, si vous voulez, c'est ce côté prestige, ce côté succès, la communication qu'il peut y avoir autour de la marque, et aussi des éléments de design. Nous, par exemple, nous avons le logo qui a évolué hein, depuis toutes ces années, mais il y a quand même un élément commun, c'est toujours de réutiliser cette approche, ce, ce motif Mondrian, et que l'on a traduit de façon différente à travers l'intérieur et l'extérieur. Par exemple, si on regarde la gamme électrique, en prenant exemple avec l'escalade IQ, il y a ce graphisme linéaire que l'on peut voir aussi sur l'Eric et Celestique, qui se répète en partant du logo Mondrian, qui va se dégrader sur la grille de façon lumineuse et ensuite atterrir dans les lampes. Et si on regarde proche des lampes, on va retrouver encore ce Mondrian en tout petit, très détaillé à l'intérieur des lampes. Donc il y a énormément en fait de liens que l'on va essayer de trouver entre notre passé et notre futur. Mmh. Je crois aussi que le fait de blender, de mixer la technologie et la décoration a aussi fait partie de Cadillac dans le passé. Hein. Il y a énormément de détails fonctionnels qui étaient dans nos véhicules avant, mm-hmm. que l'on trouve maintenant aussi dans notre future gamme.
Je parlais de ça avec des gens, c'était pas au Salon de l'Auto de Montréal, c'était à Las Vegas il y a quelques semaines, dans un salon plus technologique, mais avec des designers de... Mercedes, il y en avait de Volvo. On discutait de il y a quelques années, Jaguar a sorti une E-Type, une voiture des années 60 avec un moteur électrique. On a vraiment ressorti un design d'une autre époque avec un groupe électrique. On a l'impression que la motorisation électrique permet justement de jouer davantage avec les formes dans la conception des véhicules, quitte à revenir à des véhicules moins aérodynamiques ou moins modernes qui étaient très populaires à une autre époque. Est-ce qu'on pourrait, chez Cadillac, entre autres, justement, éventuellement sortir un véhicule, une vieille Deville des années 50, mais électrique ou quelque chose comme ça? C'est quelque chose qui existerait, ça, ou c'est l'industrie est complètement passée, rendue ailleurs par rapport à ces choses-là?
Alors ça, je vous avoue, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément de savoir à mm-hmm. ce sujet-là. Ouais. Cependant, je dirais que des choses que l'on a modifiées par rapport à la gamme électrique, vous voulez dire plutôt dans le langage formel, etc.
Hein, oui, exactement. Ça, c'est une question très spéculative, évidemment, là, parce que je vois pas ce Cadillac sortir une voiture pareille comme elle était en 1959, mais quand même juste de voir des formes rétro revenir au goût du jour, ça semble plus facile maintenant que les moteurs sont moins gros parce que l'électrique semble plus modulable là-dessus. Et je me dis que ça doit inspirer les designers vers quelque chose de vers des clins d'œil sur le passé de la marque, non?
Alors, je pense qu'on va toujours essayer de quand même rester moderne, peu importe ce qui se passera. Je crois que, voilà, l'inspiration, comme j'ai mentionné, on essaie toujours de s'inspirer de notre passé. Mm-hmm. Il y a énormément de détails, que ce soit dans la composition des lampes, que ce soit dans la position qu'on appelle les vents, j'ai ouais. perdu le mot en français.
Les buses de ventilation.
Les buses, oui.
Voilà, la ventilation, merci. Il y a des choses qui reviennent hein, quand même. Donc, je pense que, voilà, il y a encore une fois, on va essayer de toujours être moderne, de toujours parler à la marque en s'inspirant du passé, mais en soyant, en étant bien à l'écoute des tendances et des besoins.
Ben écoutez, merci beaucoup pour votre temps, Madame Lopez. C'était très gentil.
Oui.
Et on va suivre ça, Cadillac. Et puis, on va sûrement s'en reparler quand il y aura des nouveautés.
Super, merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'est à Madame Laetitia Lopez qui travaille au design, aux couleurs et aux intérieurs du côté de chez Cadillac. Nous, on va à la pause et on vous revient avec nos essais routiers de la semaine.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, c'est le moment de parler de nos essais routiers, mais juste avant, parler du balado. Comment s'abonner, oui. Où aller, où nous écouter. Alors, c'est simple, on est sur le 98.5 FM.ca. Vous allez dans la section balado et vous trouvez Ça tient la route. On est là chaque semaine, on fait une mise à jour. On est également sur à peu près toutes les plateformes que vous pouvez imaginer de balado.
Celle qui compte, en tout cas.
Celle qui compte. Abonnez-vous, c'est la façon la plus facile. On vous avertit quand le balado de la semaine est prêt. Et sur annuelauto.ca, on met la balado là et on a toutes les archives depuis notre première émission. Et c'est la façon idéale de nous écouter. Donc, on vous invite à le faire. Mon cher, de ton côté, oui. Tu as essayé Honda Passport et
du ton de ta voix du début de l'émission, c'était pas effrayant.
Je veux pas avoir l'air de vieux grognon. Je me considère
mais
pas
je vais avoir l'air d'un vieux grognon. C'est ça que tu me dis. Là.
Ben écoute, je veux dire ceci. Si vous avez le goût de voyager dans le temps, disons vers 10 ans en arrière, il y a différentes façons de le faire. Okay? Vous pouvez évidemment essayer de vous construire une machine comme la DeLorean de Retour vers le futur. Et bonne chance avec ça.
Oui.
Mais vous pouvez aussi mettre la main au volant de Honda Passport. Tu vois, je l'ai rendu positif.
Ah oui, OK, d'accord. Donc, au lieu de faire le film avec une DeLorean, tu pourras prendre une
2024.
Un passeport, puis
on se sentirait...
Tu vas nulle part, t'es déjà rendu dans le passé.
Pratiquement 15 ans dans le derrière. Le Honda Passport est un VUS intermédiaire de Honda qui a tout ce qu'il faut pour être le meilleur véhicule de sa catégorie en 2015. C'est ça que ça veut dire.
Okay.
Le Passport est un VUS d'assez bon format qu'on pourrait accueillir confortablement 5 passagers. Ça, c'est très vrai. Très confortable. Comme le veut la tradition chez Honda, l'habitacle est bien sonorisé, la conduite est extrêmement douce. L'habitacle a juste ce qu'il faut d'espace utile pour accueillir sans trop les entasser 4 ou même 5 adultes. 5 adultes, il n'y a pas de S à 5. Là où ça se gâte, évidemment, c'est partout ailleurs. Ça laisse quand même beaucoup de place.
OK, là, tu viens de parler du positif.
Oui, ben, vous avez résumé ça en deux phrases efficaces. Pour le reste, ben, écoute, aussi bien sur le tableau de bord que sous le capot, en fait, là, il y a du travail qui aura besoin d'être fait. J'ajouterai aussi que devant le bureau du vendeur, il y a des choses à considérer parce que vu le prix demandé pour ce véhicule-là, on n'offre pas grand-chose de bien nouveau ou même de concurrentiel, je dirais, par rapport à ce qui se vend ailleurs. D'abord, rappelons que le Passport coûte, selon la version choisie, entre 50 000 et 58 000 $, ce qui est beaucoup.
Attends, je t'ai pas parlé du mien.
Oui, non, mais c'est, j'ai un peu peur, en fait. Et à ce prix-là, on parle pas d'un VUS signé Audi ou BMW. Et pourtant, ils existent aussi des VUS de marque allemande, une marque exotique qui coûte 50 000 $, entre 50 et 60 000, disons. Et pour ce prix-là, ben, du côté de Honda, on obtient un VUS animé par un moteur V6 de 3 litres et demi qui est presque le même qu'Honda vendait au tournant du millénaire. Évidemment, il y a eu des petits détretouches, puis ainsi de suite, mais essentiellement.
Mais la base est restée sensiblement la même, c'est clair.
Donc, sur papier, c'est pas mal ça. Le V6 à aspiration naturelle, là, évidemment, il n'y a rien de mal à ça, mais tu sais, on a beaucoup de V6 turbo, biturbo, ces jours-ci qui font vraiment la différence. Ce V6-là produit 280 chevaux. Il affiche un couple maximal, parce que c'est évidemment toujours le maximum, de 262 livres-pieds. Tout ça est transmis aux roues motrices par une boîte automatique à 9 rapports, qui, elle, est très moderne. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et combiné à un système électronique de gestion variable du couple qui fournit un rouage intégral là, aux roues motrices, évidemment, qui est en fin de compte le principal attrait du Passport. C'est un bon système intégral. Mais après tout ça, vous dites sûrement que le Passport a au moins... parce que là, on regarde la fiche technique, on dit « Ouais, hein, il a le mérite d'être assez puissant et performant pour rivaliser avec ce qu'on peut acheter ailleurs, un Hyundai Santa Fe, une Subaru Outback, des choses comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas si simple dans la réalité. Le V6 de Honda, écoute, il est grognon, il y a presque autant que moi, je devrais dire. Il fait beaucoup de bruit.
Pas à ce point-là, quand même.
Ben, il force beaucoup, mais malheureusement, il n'y a pas le muscle, il faut la marchandise.
Là, il force, c'est Toyota, ça.
Oui, c'est ça. Puis la version plus forte, il force au max. Puis pourtant, dans le cas du Passport, le V6, malheureusement, il a l'air tout le temps essoufflé.
Ben,
il est tout le temps au bout de sa puissance. Puis c'est dommage parce qu'on aimerait, vu le bruit en plus et vu la taille du véhicule, avoir un petit peu plus de oomph.
Je pense que malheureusement, il commence à montrer son âge. On le voit. Voilà. Puis dans le milieu automobile, rester immobile, ça veut dire reculer. Parce que ça va tellement vite, parce qu'il se passe tellement de choses, parce qu'on amène tellement de nouveautés un peu partout, que quand tu restes 4, 5, 6, 8, 10 ans avec à peu près le même châssis, à peu près le même moteur, puis on le sait, le Passport est en fait un pilote avec deux places de moins. On se comprend, là, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures, c'est ça le principe de base, parce que les 5 places étaient populaires et parce que Toyota, mais Honda n'en avait pas.
Mm-hmm.
On s'est dit, OK, on ne mettra pas 10 millions là-dedans. On va, probablement qu'on a mis plus, mais c'est une figure de style.
Ah, ben là, ça, c'est autre chose.
Mais c'est ça. On a pris un pilote, on a enlevé deux places, puis...
Voilà. On aurait aimé quand même ce fameux terme technique que j'utilisais tantôt, un peu plus de oomph pour que ce véhicule-là puisse quand même se démener. Surtout dans la situation c'est assez précis, mais de changement de voie sur l'autoroute quand on veut accélérer pour dépasser un camion, quelque chose comme ça. Ça aurait été pratique, je dirais ça comme ça. Et je cherchais un peu la bibitte en me disant, ben, c'est un moteur qui est quand même... C'est quand même pas si peu puissant que ça. La boîte de transmission fait bien. Est-ce qu'on a mal jumelé le V6, on a mal étagé les rapports sur la boîte de transmission? J'ai pas vraiment trouvé le bobo, mais la combinaison, la sauce tient pas, tout simplement. C'est plate à dire, mais ça aurait été le fun.
Ah ouais, ça fait un peu vieux. Cela dit,
exactement.
Ça va pas mal. Vous n'aurez pas de problème avec ce modèle-là.
Ben, évidemment,
la fiabilité est bonne.
On peut le dire
exact.
Comme ça.
Ceux qui ne cherchent pas la dernière technologie, ceux qui vont accepter un moteur un petit peu ronchonneux par bout, vont très bien vivre avec ce véhicule-là. Ce qu'on dit, c'est que c'est un véhicule qui n'est plus à la dernière technologie.
Non, il est peut-être pas tout à fait de son époque. Évidemment, côté consommation aussi, il faut se préparer à 12 litres au 100 km environ.
Encore
12
une fois, t'as pas entendu le mien.
Ben là, c'est ça. Mais et ce sont des chiffres tout à fait banals, mais malheureusement, ça fait 15 ans que c'est la norme. Tu sais, la consommation moyenne des véhicules devrait s'améliorer dans le temps et elle ne le fait pas.
Ben, comme ils n'ont pas changé de moteur, là, hein, on n'a pas, pas changé la consommation. Chose, et est-ce que ça fonctionne ou pas ou super, cette chose?
Non, on peut mettre de l'ordinaire.
Ah, bon, c'est déjà un bon point.
Je pense que ça définit bien le véhicule, là, ordinaire. surtout, même à bord, en fait, parce qu'on aurait pu, et Honda était un des premiers à sauter dans le bandwagon, comme on dit en anglais, des systèmes
dans
CarPlay.
Le train en marche.
Merci, dans le train en marche, des systèmes comme CarPlay, Android Auto. Oui. Alors, on s'attendrait à ce que le système multimédia à bord de ce véhicule-là ait la version sans fil de ces systèmes-là que tout le monde a. Ben non, c'est pas là. Donc non, ça, c'est
quand
un peu
on dit qu'on est bloqué en 2015, c'est pas mal à tous les niveaux.
Donc on a vraiment raté plusieurs coches là, dans ce cas-ci, dans le cas d'Honda, et c'est un peu dommage pour une marque que particulièrement j'apprécie bien. J'aime beaucoup les véhicules Honda, mais là, sérieusement, on a pris du retard. Puis
je
on
dirais que le problème avec ce véhicule-là, c'est que on a étiré la sauce. Je dis ça de façon polie.
Ah oui.
Parce qu'on devrait probablement investir un bon montant. On attend sans doute de le faire pour le pilote. Mm-hmm. Et on le fera
et
du
on
même
décliner
coup
ensuite, exactement.
Pour le passeport. Mais on n'en vend pas assez pour dire, bon, ben,
non,
on va prendre le passeport.
C'est pas un modèle établi, c'est pas un nom établi, le passeport. Donc, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas d'attachement. Donc c'est
le passeport, j'appelle ça un bouche-trou. Ça prenait quelque chose pour avoir 5 places. Au lieu d'en fabriquer un de toutes pièces, regarde, l'ancien passeport était un Isuzu.
Ah oui, c'est vrai.
On avait pris Isuzu, ben oui. On y avait mis un logo Honda, puis on avait lancé ça sur la route, et c'était un Isuzu, parce que Honda voulait pas se lancer là-dedans seul. Et là, on s'est dit, OK, bon, Isuzu n'a plus, ils sont plus là. On va prendre les pilotes. Alors, c'est un peu ça, puis on n'a rien fait. Donc, si vous voulez un véhicule 2015-9... Vous allez chercher un Honda Passport.
Exactement, ça résume toute l'affaire.
Bon, moi, de mon côté, écoute, j'étais dans du gros calibre.
Ah oui, mais c'est ça, parlant de décadent et de...
Ben, c'est ça, j'ai roulé le Jeep Grand Wagoneer L. Et c'est quoi le L? C'est 30 cm de plus que le modèle régulier. Écoute, c'est presque 5,8 mètres. 8 mètres, on approche le 6 mètres. C'est 20 pieds, ça, monsieur.
Ces véhicules-là devaient avoir une plaque commerciale, là, parce qu'il était trop gros.
Ben, moi, je pense qu'il devrait être peinturé en jaune avec deux lignes noires. C'était un autobus. Écoute, j'avais des livres à aller chercher pour le salon de l'auto. Et j'aurais pu en mettre deux fois plus qu'il y en avait. Absolument. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce véhicule-là. C'est évidemment le plus grand, le mieux équipé, le plus vaste des VUS de la famille de Jeep. Il n'y a rien qui approche ça. C'est basé sur le Wagoneer, qui est lui-même basé sur un Ram 1500. Donc, si vous regardez c'est quoi qu'il y a en dessous, c'est un Ram 1500. Mm-hmm. Ça explique un certain nombre de choses. Évidemment, on a tout mis les connaissances qu'on avait du côté de Stellantis dans ce véhicule-là au niveau des écrans. Les écrans derrière le siège. Moi, j'avais un modèle là crotté. Là. Il y a rien qu'il n'y avait pas dedans.
Ouais.
Et je vais vendre la mèche tout de suite. C'est 140 000 $. Alors, t'as un Jeep à 140 000 $,
Il y a des écrans presque que dans le coffre en plus.
Non, il y a des écrans partout. Tu peux avoir Fire TV qui vient avec d'Amazon. Évidemment, c'est impressionnant quand tu vois ça là, avec les pneus et tout. T'as même des marchepieds électriques qui n'ont pas fonctionné durant la moitié de la semaine parce qu'on a gelé, qu'elle se ramassait de la glace. Il y a un marchepied qui est resté baissé.
Mon Dieu.
J'ai même accroché, heureusement, sans de gros dommages. J'ai quand même fait je le savais pas, moi, j'ai tourné le coin. Puis j'étais devant un poteau, des poteaux de la ville de Montréal. Mm-hmm. Mais moi, je disais, OK, je suis serré, c'est parce que fallait que j'étais entre deux véhicules, il fallait que je sorte. Puis j'ai entendu à la toute fin. Oh, j'ai dit que c'est ça. Je suis sorti dehors, mon marchepied est resté ouvert. Alors j'ai comme graffiné le marchepied à l'arrière. Bon, ça arrive, heureusement, là, comme je vous dis, sans grand dommage. Ça va vraiment prendre un petit morceau de plastique que j'ai fait décoller. Mais Côté confort, on peut rien redire. Là. Il y a des sièges massants. Écoute, ça vous masse en dessous du genou jusqu'à la colonne cervicale.
La nuque, ouais.
On peut l'avoir à low, medium, high. On peut avoir... il y a différentes formes de massage. Écoute, là, c'est hallucinant. Vous allez être 6, parce que nous autres, c'est un 2-2-3. Donc, c'est un 2 plus 2 plus 3. C'est un 7 places. Je pense qu'il y a aussi des 6 places où tu as 3 rangées de sièges capitaine. Celui que j'avais, tu as 3-2-2-2-2. Avec encore de la place parce que, bon,
pour les bagages,
l'espace supplémentaire, le 30 cm de plus, c'est vraiment pour les bagages. C'est l'espace cargo qui est plus grand. La performance, c'est un moteur 6 cylindres en ligne, le moteur Hurricane, qui, dans la version que j'avais, est à 500 chevaux pour un 6, ça se déplace.
Oui.
Et si vous pensez que ça consomme moins qu'un 8, non, la réponse est non.
C'est pas rien quand même, consommer plus qu'un MI, là.
Écoute, j'ai consommé et j'ai été gentil, je tiens à le souligner en ondes publiquement, j'ai pas dépassé en aucun temps les 116, 117 km/h durant toute ma semaine d'essai. J'ai fait un peu de ville. Mais je disais, hey, c'est pas pire, le réservoir baissa pas vite, mais je savais pas que le réservoir avait 125 litres. Alors, c'est une piscine. J'ai rempli ça. Ça m'a coûté 209 $, mesdames, messieurs, pour remplir le véhicule avant d'aller le remener. J'ai dit, bon, je peux-tu faire ça en deux façons?
Ça va nous prendre un nouveau commanditaire à l'émission.
Fait que c'est un essai. C'est un essai qui m'a coûté assez cher, finalement. Mais, le grand point fort, c'est sans doute le confort des sièges. Ça, il faut donner ça à Jeep. Autant la première que la deuxième que la troisième rangée.
Ben, il y a beaucoup d'écrans, mais il y a aussi un deuxième écran dans le tableau de bord du côté passager, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup d'écrans. Là.
En fait, il y a beaucoup d'écrans et les passagers peuvent avoir certaines fonctions, comme choisir la musique, ajuster la température. Il y a même des fonctions qui permettent aux passagers de regarder la télé, mais qui va avec sa propre télé qui ne sera pas diffusée dans l'écran central.
Ouais.
Il y a des écrans derrière les sièges avant pour les passagers de deuxième rangée. Et c'est là qu'on peut avoir Fire TV, mettre ses vidéos. Oui, on paye cher, mais il y a quand même beaucoup de choses. Bon, la conduite, ça, c'est l'autre affaire qui m'a un petit peu agacé parce que c'est basé sur un RAM. Donc, vous me voyez venir, là, c'est pas... OK, on a ajouté une suspension pneumatique réglable qui devrait théoriquement améliorer davantage la conduite. Le problème, c'est que ça reste très théorique. Ça tient un peu la route, mais c'est tellement gros. D'abord, un stationnement souterrain. Vous oubliez ça. En fait, j'ai de peine et de misère à entrer au stade olympique. Il y a un où ça fait, là, et je suis descendu en regardant nerveusement. Mais la plupart des stationnements souterrains, vous oubliez ça. Vous avez également, au niveau de la tenue de route, bon, c'est un peu bateau, on s'entend, là, parce que c'est vraiment pas terrible. L'autre problème, c'est l'écran tactile qui se rétracte pour révéler un chargeur sans fil et un port d'alimentation derrière. Mais faut-tu le savoir que c'est en arrière?
Ah oui, puis c'est jamais commode. En
fait. Non, parce que moi, au début, je cherchais, je disais, voyons donc.
Avec le temps, ça.
Ben non, c'est qui a eu cette drôle d'idée-là? Moi, c'est quelqu'un qui me l'a dit parce que je fouillais, puis j'ai dit, ben voyons donc, ça se peut-tu? Cela dit, une fois que vous avez apprivoisé la technologie, le système Uconnect demeure un des très bons systèmes. J'aime moins le système 5 que le système 4. Je trouvais que le système 4 était plus facile, plus intuitif, plus direct. Le système 5, je le trouve un peu long. Si vous aimez la musique, il y a un système audio Macintosh qui est vraiment, mais vraiment très bien. Puis écoute, là, t'es dans une salle de concert, c'est tellement grand. Là, t'as ton propre code postal dans ce tout-là.
Il y a une onde de haut-parleur, c'est ça qui tombe dans les trois chiffres.
Et on a évidemment calibré le système audio pour le véhicule. Donc, au niveau des sons, c'est vraiment bien. Il y a aussi beaucoup d'aides à la conduite avancée qui sont bien rodées, qui sont pas intrusifs, qui fonctionnent bien. Et la plupart, vous allez me dire à ce prix-là, j'espère, mais la plupart sont de série. Là, vous avez pas, il y a un régulateur de vitesse adaptatif, un système d'assistance au centrage de la voie qui est plutôt pratique avec ce véhicule-là, à grosseur que ça a. Là, ça aide beaucoup. Système de caméra à vue panoramique aussi, je l'ai trouvé utile, parce que quand tu recules avec ça...
Ben même vers l'avant, le capot finit sec. Hein, le design du fait que le véhicule est carré, donc on ne sait pas nécessairement où se termine l'avant du véhicule. Donc une caméra est pratique.
Peu importe ce que vous avez à transporter, ça rentre. Posez-vous pas la question, il y a de la place pour mettre à peu près tout ce que vous voulez. Je vous l'ai dit tantôt, l'économie de carburant, faut oublier ça. J'ai fait du 18,2 litres au 100 et c'est le mieux que j'ai été capable de faire. Puis c'est sur l'autoroute, quand tu tombes en ville, t'es rendu au-dessus de 20. Donc, est-ce qu'il y a une crédibilité derrière ça? Ben, regardez la concurrence. C'est un Escalade, c'est un Navigator. Puis ça va avec ça. Puis si vous prenez ça équipé, vous êtes tous dans les mêmes prix. Mm-hmm. Mais je pense que je resterai du côté de l'Escalade. Alors voilà, merci beaucoup. C'était tout déjà pour cette émission de Ça tient la route. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, soyez prudents. On vous attend dans un seul morceau la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.